Marmonne des vers perçants auxquels je l'entends goutte. Sarah est debout. Elle place son voile de soie violette sur ses cheveux. Je compte machinalement les taches de rousseur de son visage. Je pense Azra, Sarah, presque les mêmes sons, les mêmes lettres, la même passion. Morgan lui aussi regarde Sarah. Assis, il a les yeux fixés sur ses hanches dissimulées par le manteau islamique qu'elle vient d'enfiler malgré la chaleur. Qu'est devenu Azra? Je pose la question pour détourner son regard du corps de Sarah, bêtement, jalousement, comme on rappelle à un homme le prénom de sa femme pour que ses phonèmes le fouettent avec le bon Dieu et la loi morale. Morgan se tourne vers moi, un air de peine sur le visage. Je ne sais pas. On m'a raconté qu'elle avait été exécutée par le régime. C'est probable. Des milliers de militants ont disparu au début des années 80. Hommes et femmes. La patrie en danger. L'agression irakienne, au lieu d'affaiblir le régime comme prévu, l'a renforcé et a donné une excuse pour se débarrasser de toute l'opposition intérieure. Les jeunes Iraniens qui avaient vécu entre le Shah et la République islamique, cette classe moyenne, horrible expression, et avaient crié, écrit, lutté en faveur de la démocratie. Tous ont fini pendus dans une obscure prison, tués sur le front ou contraints à l'exil. J'ai quitté l'Iran peu après le début de la guerre. J'y suis revenu 8 ans plus tard, en 1989. Ce n'était plus le même pays. L'université était pleine d'anciens combattants incapables d'aligner deux mots devenus étudiants par la grâce du Basij. Étudiants qui deviendraient professeurs. Professeurs ignares qui formeraient à leur tour des élèves destinés à la médiocrité. Tous les poètes, tous les musiciens, tous les savants étaient en exil intérieur, écrasés par la dictature du deuil. Tous à l'ombre des martyrs. À chaque mouvement de cils, on leur rappelait un martyr. Les rues, leurs impasses, leurs épiceries portaient des noms de martyrs. Des morts, du sang. La poésie de mort, des chants de mort, des fleurs de mort. La lyrique devenait des noms d'offensives. Aurore 1, Aurore 2, Aurore 3, Aurore 4, Aurore 5, Kerbela 1, Kerbela 2, Kerbela 3, Kerbela 4, et ainsi de suite, jusqu'à la parousie du Mahdi. J'ignore où et quand est morte Azra. Dans la prison d'Evin, sans doute. Je suis mort avec elle. Bien avant. En 1979, l'an 1 de la Révolution, l'année 1357 du calendrier égyrien solaire, elle n'a plus souhaité me voir. C'est aussi simple que cela. Elle s'est dissoute dans sa honte. Alors que Khomeini se débattait pour consolider son pouvoir, Azra, forte de son amour pour les poèmes de Laouti, me quittait définitivement. Elle avait appris la vérité, disait-elle. Une vérité. De quelle façon j'avais intrigué pour éloigner son amant, comment j'avais menti à propos de son père, pas la vérité. La vérité, c'est mon amour pour elle, qu'elle avait pu constater à chaque instant où nous étions ensemble. C'est la seule vérité. Je n'ai jamais été entier qu'à ces moments où nous étions réunis. Je ne me suis jamais marié. Je n'ai jamais fait de promesse à quiconque. Je l'ai attendu toute ma vie. Fred Lyautey n'a pas eu ma patience. Laouti s'est pendu à un orme avec un drap dans le parc de sa clinique en décembre 1980. Azra ne l'avait pas revu depuis près de 2 ans. Une bonne âme lui a appris sa mort. Pourtant, Azra n'est pas venue à la soirée d'hommage que nous avons organisée pour Lyautey à l'Institut. Aucun de ces fameux poètes qui, soi-disant, respectaient son œuvre n'est venu, d'ailleurs. Ce fut une belle soirée, recueillie, fervente, intime. Il m'avait désigné, avec sa grandiloquence habituelle, comme son ayant droit pour ses affaires littéraires. J'ai brûlé tous ces papiers dans un évier avec les